Nous sommes dans les jardins de l'hôtel de ville, devant la statue de Marguerite d'Angoulême.
Alors, qui est Marguerite d'Angoulême ?
La sœur aînée du roi François Ier. Elle naît ici, au château d'Angoulême, en 1492, mais y vivra peu. Mariée à 17 ans, veuve à 33, elle devient reine de Navarre après son second mariage. Considérée comme l'une des femmes les plus instruites de la Renaissance, elle encourage à la foisonnante richesse des arts et lettres. On lui doit d'ailleurs une œuvre littéraire conséquente, dont son ouvrage le plus connu, l'Heptaméron. Ce sont donc tout naturellement la parole et la diplomatie qui deviennent ses meilleures armes pour servir les affaires du royaume.
C'est-à-dire ?
Elle est lassée des querelles entre ses belliqueux parents et mari. Et c'est avec d'autres dames qu'elle négocie la fin des combats entre les Habsbourg et les Valois. En pleine tourmente, elle obtient même de Charles Quint, roi d'Espagne, un sauf-conduit pour aller remonter le moral à son petit frère François, en train de dépérir d'ennui et de chagrin dans une prison de Madrid.
Il paraît qu'elle a failli être prisonnière à son tour. Tout ça par amour pour son frère.
Oui, c'est une femme de cœur, sensible à toutes les infortunes. Elle ne manque pas non plus de courage. Par exemple, elle usera de toute son influence au risque de se compromettre à la cour pour défendre et protéger de la persécution les adeptes de la réforme protestante. À la mort de François Ier, elle se retire dans son château de Nérac et décède 2 ans plus tard à Odos, près de Tarbes.
Revenons sur cette lignée des comtes d'Angoulême. Elle commence au Xe siècle avec la dynastie des Taillefer, un surnom donné au comte Guillaume, qui, lors d'un duel, avait coupé de haut en bas et d'un seul coup d'épée le roi des Normands portant lourde cuirasse. Jusqu'au XIVe siècle, au fil des guerres, alliances et traités, la Charente change souvent de couronne. Un jour française, un jour anglaise.
L'historien Jacques Baudet évoque pour nous les comtes d'Angoulême.
On est passé des Taillefer, qui était une famille de l'époque carolingienne, qui est tombée en désuétude ou en quenouille, comme on disait, puisque c'est une fille, la dernière, Isabelle. Isabelle se marie avec Jean, surnommé Jean Santerre, qui devient reine d'Angleterre. Elle a 5 enfants avec lui, elle se remarie, elle a à nouveau 5 enfants avec son nouveau mari, Hugues de Lusignan. C'est pour ça que la tour principale de l'hôtel de ville d'Angoulême s'appelle la tour de Lusignan, parce qu'elle était comtesse d'Angoulême et de Lusignan par son second mariage. 1373, grâce à l'action du connétable du Guesclin, du roi Charles V, l'Angoumois retombe dans la mouvance française. Le territoire est accordé de nouveau à un prince apanagiste français, quelqu'un de la famille royale. Et c'est justement là qu'on voit arriver les Valois-Orléans, une branche modeste de la famille royale, mais qui donnera un surgent plus tard, le comte Jean, puis le comte Charles, et le troisième comte d'Angoulême de cette famille, c'est François, qui devient roi sous le nom de François Ier en 1515.
Mais si Angoulême avait ses comtes, elle avait aussi ses maires. Très tôt, dès le XIIIe siècle, la cité obtient des Anglais le privilège d'avoir un maire. Il doit veiller en bonne entente avec les représentants du roi, à la défense de la ville, au droit et à la justice, à l'entretien des remparts. Il a aussi des attributions plutôt oubliées de nos jours. Il s'occupe par exemple de la composition et du prix du pain, de la qualité du vin et des denrées alimentaires, et de la propreté.
Que chacun devant sa maison hoste fumiers et ordures, et que nul ne jette aux puants dans les rues.
Parmi les maires de la ville, Auguste Mulac détient le record du plus long mandat, 21 ans. Au début du XXe siècle, il mènera d'importants travaux d'urbanisme en développant les réseaux d'électrification, d'eau, en construisant des rues et des écoles. En 1909, pour réduire les accidents automobiles qui se multiplient, il limite la vitesse à 12 km/h dans la ville.
Il ne se doutait pas que 30 ans plus tard, des bolides se lanceraient à plus de 100 km/h dans les rues. C'est la première épreuve du circuit des remparts. Un circuit qui revit aujourd'hui grâce au charme rétro des courses historiques, chaque troisième week-end de septembre.
Le bâtiment de l'hôtel de ville qui se dresse devant nous est en lui-même un condensé d'histoire, associant les vestiges du château des comtes d'Angoulême et une architecture néo-médiévale. L'architecte Paul Abadi supervise sa reconstruction qui va durer 12 ans et coûter 3 fois plus cher que prévu. Achevé en 1868, ce bâtiment de style néo-médiéval ne conserve, en dépit des promesses initiales de l'architecte, que les 2 tours du château d'origine.
En face de nous, le donjon polygonal achevé au XIIIe siècle par les Lusignans. Et à l'angle gauche du bâtiment, la tour ronde 15e des Valois, qui a vu naître Marguerite d'Angoulême.
Les 2 tours offrent un beau point de vue sur le plateau et ses alentours. Elles se visitent l'après-midi. Renseignez-vous auprès de Via Patrimoine, au fond de la cour de l'hôtel de ville.
Dans la cour intérieure, vous découvrirez 4 façades qui adoptent des styles différents selon la nature des pièces qu'elles abritent.
Côté porche, la façade la plus décorée dominé par son beffroi gothique d'inspiration flamande, symbolise les lieux du pouvoir municipal. En face, des grandes baies vitrées de style Renaissance illuminent les salons d'apparat. Les bureaux administratifs se contentent de la façade la plus sobrement décorée. La quatrième façade portant l'inscription « État civil » habille la base du donjon polygonal.
Bien, pour rejoindre notre prochaine étape, nous contournerons l'hôtel de ville en passant par les allées de New York. Oui, New York s'appelait jadis la Nouvelle Angoulême. Vous voulez savoir pourquoi ?
Journal de bord du pilote explorateur Giovanni da Verrazzano en l'an de grâce 1524.
Après un premier départ fort contrarié par les tempêtes, c'est finalement à bord de la Dauphine, partie de Dieppe, avec 50 hommes d'équipage, que nous accostons en mars sur la côte est d'un superbe pays que nous baptisons Arcadie. Puis, nous remontons la côte jusqu'à une rivière. Nous l'appellerons Vendôme. Au nom du roi de France, François Ier, qui a soutenu et encouragé notre expédition, nous prenons possession des terres de cette baie que nous nommons Nouvelle-Angoulême. Plus tard, en poursuivant vers le nord, c'est l'embouchure d'un nouveau fleuve qui s'ouvre à nous. Ce sera la Nouvelle-France.
Depuis, ces territoires découverts par Verrazzano pour la France ont changé de bannière. De nom aussi. Sauf l'Arcadie, qui a glissé en Acadie. La rivière Vendôme s'appelle Hudson. La Nouvelle-Angoulême deviendra New York un siècle plus tard. Et la Nouvelle-France, explorée ensuite par Champlain à l'embouchure du Saint-Laurent, abrite nos cousins du Québec.
Quant à Verrazzano, quelques années plus tard, lors d'une expédition en Amérique du Sud, il aura la malchance de débarquer sur une terre peu hospitalière qui offrait seulement aux étrangers le triste privilège de constituer le plat de résistance d'un banquet indigène sur la plage.
Reconnaissante, la ville de New York a baptisé son plus beau pont suspendu, Verrazzano.
Contournez l'hôtel de ville par sa gauche en passant par les jardins. Ensuite, tout droit, dans les allées de New York, avec le théâtre sur votre gauche, jusqu'à la statue de Sadi Carnot, érigée en hommage à ce président de la République, assassiné à Lyon en 1894 par un jeune anarchiste italien. Longez ensuite les remparts sur votre droite, vous apercevez déjà la cathédrale. Notre prochain rendez-vous est devant la façade.